verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Je vais terminer aujourd'hui le message que j'ai commencé dimanche, donc il y a un petit peu de recoupement avec ce que j'ai dit dimanche, mais certains n'étaient pas là. Donc c'est important de reprendre cet enseignement sur la sagesse. Vous savez, la grande différence, de plus en plus je m'en aperçois, c'est que quand on regarde ce qu'enseigne la Bible et ce qu'enseignent les hommes, l'humanité en général, il y a une très grande similitude qui est parfois déconcertante. Moi, ça me trouble parfois. Pourquoi ? Parce que, vous savez, les hommes, ils peuvent pas inventer grand-chose. Hein. On ne peut que découvrir des choses. Hein. On découvre ce que Dieu a fait. On découvre la création. Mais on n'est pas créateur. On est co-créateur, hein. La femme peut co-créer un enfant avec Dieu, mais ne peut pas partir de zéro. Donc c'est un peu normal, quelque part, qu'on retrouve dans le monde des concepts qui sont enseignés dans la Bible. D'autant plus que la Bible, vous savez que c'est le best-seller, c'est le livre le plus répandu au monde, qui est un élément d'influence sur les pensées des hommes. Donc très souvent, ce qui caractérise l'enseignement de la Bible et l'enseignement de l'humanisme, quelque part, hein, l'humanisme au sens noble, on veut donner le bonheur à l'homme, en fait, c'est très souvent l'esprit dans lequel c'est enseigné ou l'esprit dans lequel c'est compris. Un exemple tout bête sur la sagesse. Vous savez que l'amour de la sagesse s'appelle la philosophie. Hein. Philosophie veut dire à aimer la sagesse, l'amour de la... Donc la philosophie du monde, et la philosophie grecque en particulier, parce que là il est une question des Juifs et des Grecs, hein, qui séparent le peuple de Dieu et le peuple qui veut se sortir par ses propres forces, les Grecs. Donc la philosophie du monde, ou grecque, s'intéresse aux mots en eux-mêmes. Très souvent, c'est les mots. Qu'est-ce que veut dire les mots? Et on cherche la signification en lui-même. Et ça, ça remonte à Genèse, où le serpent a dit à Adam et Ève, si tu manges du fruit de l'arbre, tu connaîtras comme les dieux. Voyez-vous, c'est la connaissance. Donc on cherche à l'intérieur d'un concept, à l'intérieur d'un mot, ce qu'il veut dire en lui-même. C'est ça la philosophie. La philosophie de la Bible, c'est quoi? C'est pas chercher les mots en eux-mêmes. C'est chercher au travers des mots qui renvoient à une réalité, la réalité que Dieu a créée. Et la réalité la plus extraordinaire qu'il a créée, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est Jésus notre sagesse. Voyez-vous, c'est pas le mot sagesse qui est important, c'est Jésus. C'est ce qui désigne, je sais pas si je suis clair dans mon explication. Voyez-vous, la philosophie du monde, c'est chercher les choses en eux-mêmes, ça s'appelle la spéculation, on spécule, et c'est tous ceux qui recherchent la perfection, la sagesse, font de la spéculation, mais c'est de l'illusion, puisque le mot en lui-même n'a pas d'autorité, n'a pas de valeur, n'a pas de puissance en lui-même, mais si on cherche ce que la Bible désigne comme étant la sagesse, c'est-à-dire Jésus, si on cherche Jésus, on trouve lui qui est la sagesse, est-ce que je suis clair? Ok, je pense que ça va s'éclairer au fur et à mesure du message. Donc, voyez-vous, là on parle de philosophie, donc c'est pas un mauvais mot, la philosophie. Simplement, nous en tant que chrétiens, nous on aime Jésus, on n'aime pas la philosophie en elle-même, la sagesse en elle-même, voyez. Alors que le monde cherche la sagesse en elle-même, puisque Jésus le rejette. Et donc, il trouve rien, il trouve que des choses, il trouve qu'eux-mêmes, hein, il trouve que ce qu'il y a en l'homme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la philosophie, donc la sagesse, comme une colonne.
La colonne.
C'est une colonne, ça sert à supporter, à soutenir une charge, à soutenir une toiture. Hein. Olivier aurait bien voulu avoir une colonne, il a mis des colonnes pour soutenir sa toiture, sinon elle s'écroule. Voilà, donc les colonnes, ça a une fonction particulière. Et il est question des 7 colonnes de la sagesse dans la Bible. On le verra tout à l'heure où c'est écrit. Donc tout d'abord dans Proverbes au chapitre 24, je vous laisse chercher comme vous serez chez vous, chapitre 24 versets 3 et 4, il est écrit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Dans Proverbes chapitre 9, verset 1er, il est écrit « La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. » Donc là, il est question du chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu, qui est le chiffre de la complétude en Dieu. Dans les psaumes, chapitre 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » La sagesse dans la Bible occupe une place importante. Je voulais rappeler dimanche dernier qu'il y a 3 catégories de livres, enfin, qu'on peut découper l'Ancien Testament en 3 catégories, ce qu'ont fait les Juifs. Un, la loi. La loi, donc les premiers livres, qui sont là pour exposer les exigences de Dieu, les commandements de Dieu. Une deuxième série de livres qui s'appelle la prophétie, livre de prophétique. Et ces livres jugent les comportements des hommes par rapport à cette exigence, par rapport à la volonté de Dieu. Et une troisième série de livres qui sont les livres de sagesse. Alors, livres de sagesse, il n'y a pas que les Proverbes et l'Ecclésiaste, il y a aussi Daniel, vous voyez, qui était un sage dans la cour du roi de Babylone, etc. Et donc, ce sont des livres d'application. Comment on applique la parole dans la vie quotidienne. C'est dans ces livres qu'on trouve l'observation, l'expérience, la réflexion, la révélation pour parvenir à connaître les hommes et Dieu. Et les hommes, c'est important. Voyez-vous, notre vision d'Église, c'est amener des individus et des familles à connaître qui elles sont, et qui est Dieu pour l'aimer avec passion. Et qui elles sont, il faut se connaître aussi soi-même. Il faut connaître qui on est. Beaucoup de chrétiens font du spiritualisme, c'est-à-dire ils spiritualisent tout, Dieu fait tout et tout ça, et ils ne se connaissent pas. Et il faut que nous connaissions nos limites, il faut que nous connaissions qui nous sommes, pour ne pas nous faire d'illusions non plus, et pour rester dans l'humilité. Alors dans la Bible, nous voyons 2 formes de sagesse hein, qui sont clairement définies. Celle qui est l'expression du sens, du bon sens humain. Alors, je vais dire un gros mot, ça vient pas de moi, c'est un consultant. Les consultants, souvent, ils nous sortent un peu de nos sentiers battus. Il disait que pour lui, le bon sens humain, c'est la connerie généralisée. Mais bon, c'est pas de moi, hein, bon. Mais bon, le bon sens humain, vous voyez, ça existe. Et c'est ce que l'apôtre Jacques va caractériser dans son épître en parlant de terrestre, de charnel et de diabolique. Vous voyez, c'est presque même plus que ce que le consultant a sorti, puisque Jacques va même plus loin puisqu'il parle de terrestre, charnel, diabolique. Je vous lis son passage, Jacques 3, 15. « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Le deuxième sagesse dont il est question, c'est celle qui est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pas une spéculation, c'est pas quelque chose, une sagesse à laquelle on peut accéder par notre intelligence, c'est un don spirituel. Et elle implique la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, il y a une condition, très souvent, là aussi, la barrière entre le légalisme et le non-légalisme, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu ne peut pas la mesurer. Parfois, les chrétiens, on ne sait pas s'ils sont légalistes ou pas, parce qu'on ne sait pas s'ils ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on l'a, on ne l'a pas. Hein. C'est une attitude intérieure par rapport à Dieu et par rapport à qui il est. Mais c'est la crainte de l'Éternel qui permet d'accéder à la sagesse de Dieu et à l'obéissance à ses commandements et l'obéissance à la croix. Dans le livre des Proverbes, donc qui est rempli bien sûr de la définition de la sagesse, la sagesse est souvent personnalisée. Alors quelque chose d'intéressant, là pour les gens qui veulent un peu faire de théologie ou de recherche sémantique, c'est assez intéressant de voir que dans ce passage où la sagesse est personnifiée, il est dit que, chapitre 9, Proverbes chapitre 9 verset 1er, la sagesse a bâti sa maison et l'a taillé cette colonne. Mais l'original, l'hébreu, il dit les sagesses a bâti. Donc là, un problème grammatical, puisque a c'est singulier et les c'est pluriel. Voyez, comme quoi Dieu nous prend toujours en porte-à-faux, parce que on parle de les sagesses a bâti sa maison. Donc on voit bien que la sagesse est amenée à une personne, bien sûr, on le sait. Dans l'Écriture, que c'est Jésus. Donc Jésus a l'ensemble des sagesses, c'est-à-dire tout ce qui concerne une sagesse particulière. On verra tout à l'heure les sept colonnes, ce que représentent ces sagesses. Mais l'homme a pris ces passages-là en particulier, hein, qui sont à la base des enseignements gnostiques de la connaissance, comme il a représenté une femme. Vous voyez, la femme, bien sûr, la femme, après, elle apparaît comme la personne insensée dans le chapitre 9. Mais, vous voyez, pour nous, c'est pas une femme, c'est Jésus. Hein. Même si Jésus est dans un rapport féminin à ce moment-là par rapport à Dieu, puisqu'il est la réponse à ce que Dieu, le Père, attend de lui. La sagesse, donc, est représentée par une personne et on utilise les sept colonnes pour soutenir la maison. Cette sagesse, donc, on peut comprendre que ça préfigure Jésus. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 18, nous voyons Jésus qui établit une maison. C'est quoi cette maison? C'est l'Église. Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, sur ce rocher que je suis, je bâtirai mon Église. Jésus est un bâtisseur. Jésus a bâti l'Église. Amen. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, Apollos, Céphas. C'est Jésus qui l'a bâti. Amen. Il l'a bâti au début et il continuera à la bâtir jusqu'à la fin. Donc, en restant sur la préfiguration qui est représentée dans Proverbe 9, Christ, la sagesse, ou les sagesses, incarnées, va utiliser sept colonnes et les répartir pour soutenir son édifice spirituel. Mais de quelles colonnes s'agit-il? Quelles sont ces colonnes que Jésus va utiliser pour bâtir son Église? Eh bien, nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12, où nous recevons la révélation. Il est écrit que celui qui vaincra, vous êtes quelqu'un qui veut vaincre, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple. Donc cette colonne, c'est vous et moi, qui sommes élus pour devenir une colonne. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Donc, il y a trois choses qui vont être écrites sur cette colonne, et nous voyons que ensuite, après, c'est nous, et sur notre front vont être écrites ces choses, donc nous sommes la colonne, et sur cette colonne va être écrit quoi? Le nom de Dieu. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce qui est écrit? De la ville, hein, laquelle Dieu habite, et... Ouais. C'est difficile à retenir, hein, parce que on connaît pas le nom. Tu connais ton nom nouveau? Tu connais ton nom nouveau? C'est peut-être pour ça. Mais nous aurons un nom nouveau. Amen. Et le nom nouveau, il est révélé dans Ésaïe 62. Qu'est-ce qui est marqué dans Ésaïe 62? C'est notre nom nouveau. C'est ton nom nouveau. Qu'est-ce qui est marqué? Si tu veux connaître ton nom nouveau, va dans Ésaïe 62. C'est l'épouser. Tu es mon épousé. Parce que Jésus a épousé. Et il veut une épouse. Amen. Et nous, nous sommes l'épouse. Que nous soyons homme ou femme, nous sommes l'épouse du Seigneur. Voyez. Et quand nous sommes dans cette perspective de l'épouse, aimée de Dieu, fiancée, en attendant d'être mariée, eh bien, nous sommes les plus heureux de la terre. Amen. Parce que nous avons Christ comme époux. Donc, ce message du Christ, transmis à Jean, par le moyen de la révélation, est adressé à quelle église? Il y a sept églises dans l'Apocalypse. À quelle église Jésus, Philadelphie. Et vous voyez, philosophie, Philadelphie, c'est la même racine. Philo, c'est aimer. Philosophie, c'est aimer la sagesse. Et Philadelphie, c'est aimer les frères. Voilà. C'est bien. Donc une église, l'église de Philadelphie, par rapport aux autres églises, si vous regardez dans l'Apocalypse, c'est l'église fidèle. C'est l'église persévérante. Il n'y en a pas beaucoup parmi les sept, mais elle est celle qui est fidèle, persévérante, et qui, malgré le fait qu'elle manque de puissance, voyez-vous, il y a beaucoup d'églises qui cherchent la puissance. Ils font venir des gens qui sont remplis de puissance. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont remplis de puissance. J'aime la puissance aussi. Mais rechercher ça pour ça, en fait, c'est pas les critères de la Bible. Les critères bibliques, parce que les autres, ils ont certaines puissances, mais il est parlé de synagogue de Satan. Je veux dire, c'est pas forcément ce qui est à espérer. Mais l'église de Philadelphie est fidèle, persévérante, et elle manque de puissance. Elle accomplit les œuvres tout en gardant l'authenticité de la parole. Elle garde la parole. Vous voyez, ça c'est très très important. Plus que la puissance, parce que Dieu est tellement puissant que, en un clin d'œil, il peut amener la puissance quand il veut. Mais par contre, la fidélité, la persévérance, il l'amène pas. C'est nous qui devons manifester. C'est du côté de l'alliance que nous avons conclue avec le Seigneur. Donc cette église de Philadelphie caractérise par son contenu l'ensemble de tous les croyants fidèles, de toutes les générations et de toutes les nations. Et ça caractérise la consécration de leur vie, de leur prière, de leur attachement au Christ, malgré les difficultés et les tentations qui nous entourent. Et c'est le lot de chacun de nous. Alors revenons à ces sept colonnes. Donc cette église, cette colonne, la sagesse taille, c'est cette colonne. Vous savez qu'il y a un bloc de pierre, si on prend une colonne dans une pierre, qu'on veut faire, vous savez, les obélisques, en principe, c'est d'une seule pierre, parce que vous pouvez faire un obélisque avec différents morceaux, mais les vrais obélisques sont taillés dans un bloc. Voilà. Donc d'un bloc de pierre, sans forme, dur, entouré d'arêtes parfois blessantes, le Seigneur doit tirer une colonne pour son temple. Voilà l'image de la colonne. Et dans notre époque de tentation, de toutes sortes, le Seigneur cherche encore des chrétiens, des chrétiennes, qui acceptent d'être taillés pour subir une véritable transformation spirituelle pour devenir une colonne. Le Seigneur veut que nous soyons une colonne d'un bloc difforme. Et quand le Seigneur nous cherche, et très souvent, il dit que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages, d'intelligents, de puissants, etc. Le Seigneur, souvent, nous trouve déformés, mais il veut nous former. Voyez-vous. Il veut pas que nous sortions comme nous sommes rentrés, il veut que nous soyons une colonne. C'est ça, son objectif. Et est-ce que nous acceptons d'être travaillés pour devenir cette colonne dans son temple? C'est dans la mesure où nous deviendrons des colonnes ici-bas, dans ce monde, que le Seigneur fera de nous des colonnes dans son temple, c'est-à-dire dans la gloire à venir. C'est ça l'objectif. Le Seigneur va nous utiliser dans le futur, mais il veut déjà nous préparer pour être des colonnes pour le temple et la gloire à venir. C'est pas étonnant que le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie, dont le nom signifie amour fraternel, amour des frères et des sœurs. Et c'est dans cette église que le Seigneur va tirer ses colonnes. C'est une merveilleuse image d'une carrière d'extraction, dans laquelle, l'amour fraternel est le principal gisement. Voyez-vous, c'est dans l'église de Philadelphie que le gisement le plus important, c'était pas l'or, c'était pas la puissance, c'était pas la dynamite, c'était l'amour fraternel. Et c'est dans cette église qu'il peut tirer le plus facilement des colonnes. Une église dont la caractéristique principale est l'amour fraternel doit s'attendre à être utilisée par Dieu. Pour les croyants de l'église de Philadelphie, entendre que le Seigneur ferait de tous ceux qui vaincront des colonnes dans son temple, et dans le nom de sa ville, est d'une importance capitale. Vous savez, Philadelphie, si vous allez dans la ville de Philadelphie, en Turquie maintenant, en Asie mineure à l'époque, c'est une ville construite dans une région où il y a des tremblements de terre. Et régulièrement, toutes les pierres étaient par terre, c'est pour ça que quand on fait des fouilles, on trouve des pierres, on peut faire des fouilles, on trouve tout le temps des constructions qui sont enfouies dans les décombres. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre dans cette région. Et le message que l'apôtre Jean donne, d'une cité inébranlable qui venait d'être révélée à cette église, c'est cette cité dont Jésus parle, qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur, et c'est Hébreux 11, 10 qui va nous révéler cela. Voyez-vous, même si nous sommes dans un endroit d'ébranlement, de tremblement de terre, dans ce nouvel âge du 21e siècle que nous allons, il va y en avoir de plus en plus, nous avons besoin d'être établis par le Seigneur et d'être une colonne dans son temple. Nous avons vu dans Apocalypse 3, 12 que sur cette colonne va être écrite le nom de Dieu, le nom de la ville et le nom nouveau. Donc, l'épouse que nous sommes vis-à-vis de Jésus. Dans Apocalypse 22, donc le dernier chapitre, au chapitre verset 4, il est dit que le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Vous voyez, sur notre front, en tant que colonne, il y aura le nom de Jésus qui sera inscrit. Alors, quels sont ces sept noms que portent les colonnes, les sept colonnes, ceux qui étaient là dimanche dernier le savent déjà. Quels sont ces sept noms des sept colonnes de la sagesse? Pardon? Très bien. Oui? 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 Amen. Amen. Allez, tu peux les répéter? Stop! C'est quel verset? Très bien. C'est marqué où? Très bien. Amen. Allô? Vous les avez en tête? Ce sont les sept noms. C'est Jésus. Ce sont les sagesses. Jésus représente toutes les sagesses possibles, imaginables. Admirable, conseiller, Dieu puissant, vous voyez la puissance de Dieu, Père éternel, Prince de la paix, Dieu avec nous, Emmanuel, incarné. Jésus s'est incarné pour être avec nous. Et Jésus qui délivre, qui sauve. Cette révélation de ces sept noms, de ces sept colonnes, que doivent porter les chrétiens aujourd'hui? Nous devrions, porter ces sept colonnes face au monde. Et celle qui décrit celui qui est admirable, qui est un conseiller du puissant, etc., c'est cela, cette révélation qui doit nous habiter pour être cette colonne. Remarquez une chose. J'en ai déjà parlé suite à le rêve que Olivier avait fait un jour, que Dieu a choisi des colonnes pour soutenir la maison de Dieu et pas des murs. Et pourquoi n'a-t-il pas choisi des murs pour soutenir la maison de Dieu qui sont les colonnes de la sagesse? Pourquoi des colonnes et pas des murs? Quels sont ceux qui se rappellent de la réponse? Je vois des sourires, pardon? Voilà. Jésus est venu pour faire tomber les séparations. Il y a eu une séparation très très importante, très très grave, qui était encore une sagesse qui a séparé les gens de l'époque, c'est les Juifs et les Grecs. Et quand l'Église est apparue, eh bien il y a une séparation immédiate dans l'Église, où les Juifs voulaient rester Juifs. Et ils étaient jaloux que les Grecs puissent accéder au salut, puisque le salut vient des Juifs. Et il y a eu tout un combat, y compris Pierre, le premier, qui a résisté à cette idée. Et Dieu, par le Saint-Esprit, a dû l'envoyer chez Corneille pour lui ouvrir la révélation que le message est aussi pour les non-juifs. Amen. Tout un message là-dessus, mais vous le connaissez ce message. Donc les murs, Jésus est venu pour abattre les murs. Et dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de murs. Il peut y avoir de murs entre les hommes et les femmes. Hein. Très souvent, dans une certaine époque, on voyait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Voilà. Vous voyez, on aime bien, l'homme aime bien les séparations. Hein. On voyait les gens de couleur, les noirs, les blancs, etc. Vous voyez, les ségrégations. Les hommes, ils aiment les séparations parce qu'ils veulent rester entre eux. Voyez. Or, Dieu veut que nous soyons ouverts à tous. Amen. Vous voulez être ouvert à tous. Voilà, et bien c'est ça l'Église. Parce qu'il n'y a pas de mur dans l'Église, dans le temple de Dieu. Les murs font des séparations, des cloisonnements, des emprisonnements. On est emprisonné dans ces quatre murs. Donc les colonnes soutiennent un édifice sans le cloisonner et permettent une liberté de l'espace. Hein? Amen. Par contre, sur la terre, les murs sont nombreux, hein, comme j'en ai évoqué certains. Et ce soit là les murs de haine, comme on le voit en ce moment, hein, en Égypte ou autre, les murs de racisme, d'indifférence, les murs d'idéologie, chacun son idée. Hein. Toi, tu as une idée, toi, tu as une théorie, etc. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'idée de théorie, il y a des réalités. Il y a Christ, la croix. Ça, c'est la réalité de la croix. C'est celle qui fait tomber toutes les barrières et tous les murs. C'est à cela que les véritables chrétiens, et je dis bien véritables chrétiens, sont appelés. Devenir des colonnes dans l'Église pour éviter d'être cloisonnés. Amen. Et pour lui éviter de s'effondrer. Parce que quand les murs s'écroulent, eh bien, l'édifice tombe. Amen. Et les murs un jour s'écroulent de toute façon parce que les barrières n'existent pas. C'est nous qui les fabriquons, les barrières. Amen. Dieu nous a tous créés de la même origine, de la même nature, de la même chose au départ. Amen. Et c'est nous qui créons des barrières. Et trop d'églises sont encore cloisonnées. Trop d'églises. Et même la nôtre, je pense que c'est un principe de base. Il faut toujours lutter contre les cloisons. Elles font des distinctions entre les uns et les autres. Certaines familles, d'autres familles, etc. Et une église cloisonnée n'est pas selon le modèle du ciel. C'est un modèle humain, mais pas un modèle qui vient du ciel. Alors, quelles sont les qualités de ces sept colonnes? Donc, on va prendre chaque colonne parmi ces sept colonnes. Et, disons, en gros, toutes ces colonnes ont des qualités qui sont le fait que chaque colonne ressemble à l'autre. Voyez-vous ? Chaque colonne a la même qualité. Si vous faites le tour d'une colonne, vous avez déjà fait une tour d'une colonne hein, qui est ronde, peu importe la direction dans laquelle vous le regardez, il est toujours pareil. Toujours pareil. Vous voyez toujours la même chose. Et ça, c'est encore une qualité qui doit se retrouver dans la vie des chrétiens. Si on regarde un chrétien, que ce soit le dimanche matin au culte, ou que ce soit le lundi matin au travail, ou que ce soit avec les amis, ou que ce soit dans n'importe quelle circonstance, on doit voir la même chose. Vous dites amen? Oui. Et si ça c'est pas le cas, eh bien, on n'est pas une vraie colonne, on n'est pas encore bâti, on n'est pas encore construit selon la colonne que le Seigneur veut. Et beaucoup de croyants sont versatiles, changeants, selon les humeurs, inconstants, influctuants, fluctuant en fonction des humeurs, des émotions, etc. Et c'est normal. C'est... Donc nous ne sommes pas une colonne pareille. Nous avons des bosses, nous avons des fragilités, nous avons des choses qui ont tendance à fragiliser notre structure, notre colonne vertébrale, je dirais. Voilà. Une colonne dans le temple de Dieu est de la qualité partout pareille, dans tous ses aspects, toutes ses dimensions, toute sa structure interne. La deuxième particularité d'une colonne et de cette colonne, c'est qu'elle ne bouge pas. Une vraie colonne ne bouge pas. Elle reste en place parce que sa fonction, c'est de soutenir. Nous avons donc une qualité spirituelle illustrée par cette colonne. C'est la stabilité, la constance, la fidélité. Et ces trois qualités devraient être dans les caractéristiques de chaque croyant. Troisième particularité d'une colonne, elle a les pieds sur la terre et la tête. Et la tête dans le ciel. Elle est dégagée. Hein. Peut-être même si elle n'a pas des milliers de kilomètres, mais la tête au ciel. Hein. Les pieds sur la terre, la tête au ciel. Vous avez ça? Vous avez les pieds sur la terre et la tête au ciel? Vous êtes que dans la tête au ciel? Vous êtes que par terre? Non. Une colonne, elle a les deux. La véritable spiritualité, elle réclame un équilibre entre les réalités de notre quotidien et les réalités du ciel et la foi. Amen. Et certains croyants sont trop attachés aux choses de la terre, ils ont du mal à se détacher, et d'autres vivent en extraterrestre illuminé. Vous voyez, les mystiques, vous pouvez plus les ramener sur terre, et voilà, donc ils sont dans une piété totale. Quatrième caractéristique d'une colonne, c'est que toutes les colonnes ont la même hauteur. Les sept colonnes ont la même hauteur. Sinon, vous imaginez le bâtiment que vous avez? Vous avez une colonne qui fait 10 mètres, l'autre qui fait 2 mètres, l'autre qui fait 18 mètres. Hein? Vous voulez faire un bâtiment correct avec ça? Non. Ils ont la même hauteur. Il n'y a pas de plus grande ni de plus petite. Elles sont taillées à la même dimension par le Seigneur. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Le Seigneur n'a pas de chouchou. Alors, vous êtes tous des chouchous. Nous sommes tous des chouchous. Nous sommes tous aimés de la même manière. Et certains chrétiens se croient moins bien aimés que l'autre. Certains chrétiens pensent qu'il faut absolument qu'ils prêchent sur le pupitre pour être aimés du Seigneur. Voyez. Et à partir de toutes ces considérations-là, il y a des jalousies. Il y a des rivalités, il y a des choses qui se passent parce que on peut pas accepter d'être à sa place, on veut la place de l'autre parce qu'on pense qu'on sera mieux aimé, voyez-vous? Non, les colonnes ont la même hauteur. Amen. Et Dieu aime chacun de la même manière selon ce qu'il nous a créé et pour la tâche qu'il nous a destinée. Et la colonne, les colonnes soutiennent tout l'édifice. C'est un édifice, c'est pas 1000 édifices, c'est pas 3 édifices, c'est un édifice. C'est le temple de Dieu. Et ces colonnes, eh bien, soutiennent le même édifice. Elles sont solides, on peut compter sur elles. Malgré la charge qui repose, eh bien, elles soutiennent l'édifice. Elles ne murmurent pas, ça vous dit quelque chose? Elles ne murmurent pas, les colonnes. Elles soutiennent l'édifice sans murmurer, parce qu'elles reçoivent la force du Seigneur. Amen. Alors, nous allons voir maintenant quelques modèles de construction. Le premier modèle de construction, c'est le temple que Dieu a fait construire à Salomon. Vous connaissez le temple de Salomon? Dans le temple de Salomon, que Dieu lui a fait construire, donc 1 roi, chapitre 7, verset 15, il est écrit, il fit les deux colonnes de bronze hautes de 9 mètres. Vous savez ce que c'est que 9 mètres? C'est si vous l'allez dans le sous-sol, en bas, et jusque là-haut, ça fait 9 mètres. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer 9 mètres. Donc, de bronze haute de 9 mètres et ayant 5 mètres de circonférence. 5 mètres, ça fait combien? Là, il y avait 15 mètres. Donc, vous divisez par 3. Donc, de là jusqu'à Jean-Gilles, voilà, ça fait 5 mètres. Vous voyez le genre de colonne qu'il y avait devant le temple de Salomon. Vous voyez la... Vous voyez? Et ça, c'était fait à l'époque de Salomon. Et elles étaient en quoi? Elles étaient en quoi? En pierre? Pardon? En airain? Non, elles n'étaient pas en airain. Ah oui, alors il y a peut-être des problèmes de traduction. Hein. Problème de traduction. T'as peut-être pas la bonne traduction. En quoi était-elle faite? Oui. Le bronze est fait de quoi? Alors là, c'est de la métallurgie, là. Hein. On rentre dans la métallurgie. Hein. Le bronze, c'est quoi? Alors, combien de pourcentage de cuivre? C'est important, ça. Ah bah oui, si on fait de la métallurgie, il faut aller dans les détails, là. Alors, du cuivre. Pardon? Non, 80 à 85. Sinon, c'est pas du bronze, du vrai bronze, ça tient pas bien. Donc, 80 à 85% de cuivre. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans, dans le bronze? Pardon? Non? 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 Un métal noble, hein? Pardon? Ah non, surtout pas de plomb. Dans l'échelle de Mendeleïev, c'est le dernier. Pardon? Non, non, pas non plus d'argent. C'est un métal que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser parce que vous n'êtes pas plombier. Non? 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 Alors, du zinc, il y en a qui disent du zinc, je vais quand même vous répondre. C'est quoi du cuivre et du zinc? C'est toi, Sonic, qui a du zinc? Ah bon, je sais pas qui c'est qui l'a dit, mais elle est en train de faire ça, sa véranda avec ça. Donc, tu vois, elle est pas au courant. Et du laiton. Le laiton, du cuivre et du zinc. Et ça donne le laiton, c'est avec ça que Sonic fait sa véranda. Voilà. Jaune, c'est très joli. Et ça bouge pas. Voilà. Alors, revenons au bronze. Au bronze. Cuivre, 80-85%. Le reste, c'est l'étain. L'étain. Vous connaissez l'étain? Et quand on fait du bronze, c'est-à-dire du cuivre et de l'étain, qu'est-ce que ça donne comme particularité à ce matériau qui s'appelle le bronze? Pardon? Ah non. Non, non. Non, non. Alors on voit que vous n'êtes pas catholique, hein. Ah, merci. Les cloches sont faites en bronze, hein. Les cloches sont faites en bronze. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier de la cloche? Elle sonne. Elle est faite pour sonner. Hein. Alors, imaginez une colonne comme ça en bronze plein. C'est impossible à soulever. Okay. Donc cette colonne-là, à l'époque de Salomon, elle était faite avec, elle était creuse à l'intérieur. Okay. Elle était moulée parce qu'on coule le bronze, hein, comme les cloches, on les coule. Et donc elle est creuse. Et quand elle est creuse, qu'est-ce qu'elle a la particularité d'une colonne comme ça qui est creuse? Bah c'est une cloche, une caisse de résonance. Il semblerait, alors ça vient pas de moi, ça vient d'un rabbin juif, hein, qui a fait des études. Vous l'avez sur Internet, vous avez les mêmes sources que moi. Il a fait des études de résonance de la voix. C'est-à-dire qu'une colonne comme ça, il a fait une étude de la voix, des fréquences de la voix, et il montre que si vous avez des colonnes comme ça de chaque côté, eh bien, c'était un porte-voix pour le souverain sacrificateur. C'est quand le souverain sacrificateur parlait au peuple, entre les deux colonnes, eh bien, ça résonnait et ça amplifiait et tout le peuple entendait sa voix. Fantastique, ça. Hein? Vous n'avez pas pensé à ça. Hein? C'est un porte-voix. Et il paraît que ça descendait les graves, hein, au point où ça faisait peur. Enfin, ça amenait une crainte du peuple parce que c'est comme s'ils entendaient Dieu leur parler. Vous voyez l'imagination de Dieu pour arriver à faire des choses comme ça. Bon, ça c'est pour votre culture générale, mais juste pour montrer comment chaque détail a son importance. Donc ces colonnes étaient de bronze. Il y en a une qui s'appelait Bose, à gauche, et à droite, Jachin. Bose, ça veut dire quoi? En lui est la force. Et Jachin, il affermit, il établira, il affermira. Donc voyez-vous, quand qu'est-ce qui avait le droit d'entrer dans le temple? Le peuple? Bon. Non, pas les Lévites non plus. Certains Lévites. Les castes des prêtres qui étaient en service. Pas les Lévites ordinaires qui les scribes et tout ça. Non, c'est les sacrificateurs qui avaient un certain droit parce qu'ils étaient préparés à ça. Et bien sûr, le souverain sacrificateur. Donc, voyez, celui qui entrait dans le temple, il passait par ces colonnes. Et il se rappelait, c'était un rappel, que c'est en lui, en Dieu, est la force, et c'est lui qui affermit. Amen. Et vous, c'est un rappel de notre, enfin, de leur condition humaine, de notre condition humaine, et que nous devons chercher ces forces, ces choses en lui. Et dans Colossiens, chapitre 2, verset 7, il est écrit, en Christ, vous êtes. Vous êtes, pas vous faites. C'est l'être, c'est notre identité. En Christ, vous êtes enracinés et fondés et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Et vous, c'est un rappel qu'en Christ, qui lui est la sagesse et les sagesses, eh bien, nous sommes enracinés, fondés, affermis. Il affermira. Et pour la colonne Bose, c'est la révélation de notre force qui vient de Dieu. C'est dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, il dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour, de sagesse. » Oui, un esprit de force. Vous voyez, si nous nous rappelons ces deux colonnes, que c'est en lui, en Christ, que nous sommes affermis, fondés, enracinés, et que c'est en Dieu que nous avons la force, et la joie de l'Éternel est notre force. Rappelez-vous ce que Marie-France a dit de la joie ce matin. La joie de l'Éternel est notre force. C'est pas les circonstances, c'est pas si nous sommes riches ou nous sommes pauvres, c'est la joie qui nous donne la force. En lui la force, il affermira. En lui la force, il affermira. Dites-le tous ensemble. En lui la force, il affermira. Amen. Ça, c'est la signification de ces deux colonnes. Je vous fais grâce de la manière dont les francs-maçons utilisent ces significations, qui est triste à pleurer, mais c'est comme ça. Mais nous, nous avons cette sagesse que Dieu nous a donnée pour être affermis en lui et avoir la force du Seigneur. Ces colonnes, en plus de porter la voix, qui est un porte-voix, et nous devrions être des porte-voix dans le monde, de cette force, de cette sagesse de Dieu, eh bien, il reflétait aussi la lumière, hein, il reflétait les rayons du soleil, et nous devrions tous refléter aussi la gloire du Seigneur dans nos vies. Parfois, donc là, je quitte l'image du temple de Salomon, parfois, il est question de colonnes de fer, donc d'airain, hein. C'est là qu'il y a l'airain. L'airain, c'est le fer. C'est la même chose. Donc, des colonnes de fer. Et cette image est utilisée pour Jérémie. Lorsque l'Éternel suscite Jérémie pour l'établir comme prophète sur les nations, Jérémie n'était qu'un enfant. Quand Dieu a parlé à Jérémie, il était un enfant qui se sentait seul et sans force. Et c'est aussi la caractéristique que nous devrions être. Jésus a dit, si vous devenez comme des petits-enfants, voyez-vous, parce que lorsque nous n'avons pas de force, c'est là que le Seigneur peut nous utiliser. Si nous nous sommes forts, nous nous sentons forts, le Seigneur ne peut pas nous utiliser parce que nous allons substituer notre force à la sienne. Et le Seigneur veut que nous gardions cette faiblesse en comptant sur sa force qui agit en nous. Jérémie, chapitre 1er, verset 18, il est dit, « Voici, je t'établis comme une colonne de fer, une colonne d'airain. » La colonne de fer, c'est là Cathy a raison, c'est une colonne solide. Ça, on peut pas le casser. Hein. Bon, aujourd'hui, on a découvert les aciers. Les aciers, c'est quoi par rapport au fer? Non. Ah bon? C'est vrai qu'il n'y a pas de métallurgiste ici. L'acier, on parle de l'acier. C'est vrai qu'on fait plus de ponts en acier qu'en fer, parce que le fer... Pardon ? L'acier. Si, ça rouille, sauf c'est l'acier inoxydable, ça rouille pas, parce qu'on met du nickel dedans, mais ça c'est encore un autre ingrédient. Mais dans le fer et l'acier, la différence, c'est tout simplement l'acier et du fer, sauf que il est trempé. C'est-à-dire qu'on le chauffe et on le trempe. C'est-à-dire c'est la cristallisation qui change. C'est l'orientation des cristaux à l'intérieur du métal qui change. Donc vous voyez, l'acier ou le fer, c'est la même chose. Simplement, on le trempe. On le chauffe, on le trempe dans l'eau ou dans l'huile, etc. On fait du trempé. Pardon ? Oui, il y a du carbone, mais dans le fer aussi, il y a du carbone. Oui, tout à fait. Mais la caractéristique, c'est pas le carbone, c'est le fait d'être trempé. On appelle ça de l'acier trempé souvent. Donc les colonnes de fer, quelque chose de solide, de résistant, contrairement au bronze qui a d'autres caractéristiques. Le fer ou l'acier, si vous voulez, c'est quelque chose où vous pouvez taper dedans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est rare de trouver un métal plus dur que le fer, plus résilient. Si cette colonne est en fer, en bronze, vous pouvez la casser. Vous pouvez rentrer dedans avec un fenwick, paf, vous faites un trou dedans. En fer, c'est impossible. C'est, vous rebondissez, mais ça fait rien, quoi. Et Dieu a établi Jérémie comme une colonne de fer. Et quelle est la caractéristique d'une colonne de fer dans le monde spirituel, je parle maintenant. Dans le monde spirituel, je quitte le monde terrestre, au monde spirituel. Alors? Monde spirituel, hein. Il faut toujours transposer les choses de la parole de Dieu dans le monde spirituel pour comprendre comment l'appliquer à nous. Quelle est la particularité d'être une colonne de fer, hein? Quand Dieu dit, Annick, je veux faire de toi une colonne de fer. Solange, je veux faire une colonne de fer. Pardon? Oui, mais à quoi? À quoi? Au combat spirituel. Est-ce que vous voulez faire du combat spirituel? Hello? Je m'adresse à des chrétiens, là? Est-ce que vous avez de temps en temps affaire à du combat spirituel? Ah ben là, il faut être une colonne de fer. Hello? Pas une colonne de bronze, colonne de fer. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il a dit, je rendrai ton front plus dur. Hello? Que ceux qui t'attaquent. Et là, il faut être une colonne de fer. Pour les combats, pour les oppositions, pour combattre avec Satan qui s'infiltre dans les mentalités. Là, il faut être une colonne de fer. Quelle est la colonne que tu es ce matin? Tu es une colonne de bronze? Tu es une colonne de fer? Il faut être les deux en même temps. Amen. Être rempli de force, être affermi dans la parole du Seigneur. Dans Galates, au chapitre 2, verset 9, il est question, donc Paul déclare aux Galates, en disant que Jacques, c'est le frère du Seigneur qui était le responsable de l'église de Jérusalem. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. Paul a dû aller à Jérusalem pour s'expliquer sur son ministère, parce qu'il y avait un litige, justement, entre ceux qu'il prêchait aux non-juifs, et il est allé voir Jacques, Céphas et Jean, qui sont des colonnes. Et vous, des leaders doivent être des colonnes. Comment sommes-nous regardés? Est-ce que nous sommes regardés comme des colonnes ou pas comme des colonnes? Dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16, il est écrit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Et où les colonnes du Seigneur spirituel sont appuyées sur quoi? C'est quoi? Un rocher, le roc. C'est qui le roc? C'est qui le roc? Celui qui la prendra pour appui. On a beau être une colonne, mais quel est l'appui que nous prenons? Vous voyez, moi j'ai des problèmes avec ma maison parce que les fondations sont de l'argile. Et l'argile, c'est la pire des terres qui existent parce qu'elle lâche. Hein. Il faut un roc. Si vous êtes sur du granit, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur du roc, il n'y a pas de problème. Et notre vie spirituelle doit être appuyée sur Jésus, sur le roc. Hein. Je relis ce passage, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, la colonne qui prendra ce roc pour appui, eh bien, il n'aura point hâte de fuir. Voyez-vous, dans le combat spirituel, nous avons peur. Deux choses. Parce que, parfois, en tant que colonne, nous sommes une colonne d'argile ou de bronze. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un combat et que vous êtes attaqué en tant que colonne? Ça peut être pulvérisé. Et deuxièmement, notre fondation n'est pas toujours sur du rocher. Il est sur du, hein, bon, c'est peut-être plus du sable, mais vous voyez, la parole de Dieu en dessous de nous, elle flanche à un moment donné parce que les attaques sont violentes et puis on ne sait plus si on doit croire, si on doit avoir la foi ou si on doit faire autre chose. Vous voyez. Mais si vous êtes appuyé sur le roc, sur la parole de Dieu, votre foi restera jusqu'au bout du combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est pas vous qui décidez quand il s'arrête. Parce qu'en face, c'est une personne, c'est Satan, qui est une personne, qui a une volonté de vous détruire et de vous nuire. Donc c'est pas lui. Dieu, bien sûr, peut l'arrêter, mais vous n'êtes pas tributaire, vous êtes pas, vous, c'est pas vous qui pouvez dire à Dieu, maintenant, voilà, il faut que tu arrêtes. Dieu, s'il permet l'épreuve, c'est parce qu'il veut vous faire grandir, mais tout ça, vous le subissez. Et bien sûr, Dieu va arrêter à un moment donné quand il voit que vous flanchez, pour pas que vous flanchez complètement. Mais l'idée, c'est que vous restiez solide. Et si vous êtes sur la parole, n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel combat que vous avez, vous tenez. Parce que c'est comme ça, c'est la réalité. Si vous êtes appuyé sur Jésus, rien ni personne, aucune parole ne peut vous déstabiliser parce que c'est la parole de Dieu. Si vous êtes une colonne de fer, de bronze et tout cela, eh bien rien ne peut buter sur vous pour ça peut vous faire un bobo, mais ça peut pas vous détruire, voyez-vous. C'est ça l'image spirituelle qu'il faut garder ce matin. Il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15 ceci: si je tarde, et Jésus en ce moment il tarde depuis 2000 ans, ok? Parce que depuis 2000 ans, il a dit, nous sommes dans les derniers temps. Donc Jésus tarde. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Voyez-vous, il y a des chrétiens, Jean-Paul Englert en faisait partie, peut-être ça n'a pas l'air comme ça, mais c'était un hippie. Hein. C'était un hippie, oui, avec des fleurs, voilà, des voitures bumper, machin et tout ça, voilà. Des cheveux longs, hein. Cathy, tu l'as vu, non? Voilà, donc Cathy, oui, elle témoigne que c'est vrai. Et à l'époque, il disait, quand il s'est converti, il a dit dans sa communauté de hippies, ils ont dit, bon, ça y est, le Seigneur va revenir, donc on ne répare plus les voitures, c'est pas la peine, il va revenir. Plus les voitures. Alors, vous voyez, c'est pour ça que les voitures se dégradaient comme ça, et les hippies avaient, voilà. On n'a plus besoin de vêtements, on n'a plus besoin, voilà, le Seigneur va revenir d'une seconde à l'autre, vous voyez. Donc, ça donne une attitude, qui est celle-là, hein. Il a bien changé, Jean-Paul, maintenant. Mais, je reprends le verset, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est quoi la maison de Dieu? La suite du verset. Quelqu'un connaît la suite du verset? Est-ce que Dieu donne une recette? Est-ce que Paul donne une recette? Non, il donne pas de recette à Paul. Mais il lui donne la raison. La raison, c'est quoi la raison? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Non. Il donne pas la recette. Il dit simplement, je relis, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voyez-vous, la colonne doit être l'appui pour la vérité. Un chrétien qui ne peut pas vivre dans la vérité. Et je rappelle que vérité et réalité, c'est la même chose, dans la réalité. Qui peut vivre dans le vrai, dans les choses qui sont vraies, ne peut pas se conduire correctement. Et je le disais, dans le genre masculin-féminin, c'est particulièrement l'homme avec un grand H et avec un petit H, si vous voulez, l'homme qui est chargé d'être celui qui peut soutenir la vérité, être la vérité, dire la vérité. La femme est son vis-à-vis, bien sûr, elle doit être aussi dans la vérité. Mais c'est particulièrement l'homme. Donc la responsabilité de l'homme, c'est de savoir dire la vérité dans l'amour. Mais la femme est là pour l'aider à dire dans l'amour. voyez, mon quand je fais un courrier, quand j'ai quelque chose à dire dans la vérité, je me fais toujours relire par ma femme, et des fois ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce que chaque mot soit pesé, pour que la vérité soit dite, mais dans l'amour. Mais sans la vérité, aucune maison peut tenir. Parce que c'est la vérité qui est éternelle. La réalité, ce que Dieu a créé. Tout ce qui est rajouté, tout ce qui est faux, tout ce qui est illusion, ça vient de Satan. Tout ce qui est faux semblant va tomber, un jour ou l'autre. Il vaut mieux que ça tombe plus tôt. Parce que plus tôt vous faites tomber les faux semblants, plus votre maison va tenir. Vous dites amen. Et c'est ça le challenge, le défi. Et en particulier des leaders. Et moi, je suis assez abasourdi de voir que les leaders dans l'Église, parfois, ils ont moins de vérité que dans le monde. Je le dis avec grande peine. Et je trouve que c'est dommage que nous, en tant que leaders, si on n'aspire pas à ça, sous prétexte que c'est dur, c'est difficile, bah oui, c'est difficile, mais Dieu a tout prévu pour nous. Il fait de nous une colonne d'acier, de fer. Il nous fait appuyer sur un rocher. Donc nous pouvons être encore plus que le monde, être capables de soutenir la vérité. Amen. Moi, en tout cas, c'est mon désir. C'est toujours être dans la vérité. Et si je le suis pas, ma femme est là pour me le rappeler. N'en faites pas. Et mes collègues aussi, et mes collaborateurs. Je suis très content de mes collaborateurs ici dans l'Église. Vous n'avez pas peur de dire la vérité. Et il faut me dire la vérité. Et il faut qu'on se dise la vérité. Amen. Parce qu'il n'y a que la vérité qui restera éternellement. Tout le reste sera brûlé au feu, sera jeté au feu, sera passé par le feu. Et tout ce qui n'est pas vrai et ne durera pas. Pour vaincre les difficultés de la vie, il faut être une colonne. Job chapitre 28 verset 7, il est écrit « Alors Dieu vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondations et les mit à l'épreuve. » Voyez-vous, une colonne est toujours mise à l'épreuve. Ne serait-ce que quand on appuie dessus. Amen. Quand j'ai acquis ce bâtiment-là, comme je suis ingénieur en métallurgie et tout ça, j'ai vu en bas des colonnes, mais elles étaient petites comme ça. J'ai eu peur, je dis, voilà, on va construire un étage au-dessus, on met 300 personnes, tout ça, ça va reposer sur ces colonnes. Colonnes de fonte, là c'est de la fonte, c'est encore autre chose que ce qu'on vient de dire. J'ai vu ces colonnes, j'ai dit, waouh, est-ce que ça va tenir? J'ai fait venir la pave, qui teste les choses. J'ai dit non, pas de problème. Tout petit comme ça. Effectivement, j'ai refait les calculs, parce que je peux faire les calculs, et effectivement, il y a une marge suffisante pour tenir. Mais c'est tout petit, vous voyez, une colonne, rien qu'une petite colonne peut tenir un bâtiment énorme. À condition que cette colonne, eh bien, soit mise à l'épreuve. Et en général, on met à l'épreuve une colonne quand on la fabrique, pour être sûr qu'il n'y a pas d'ingrédients. Parce que vous pouvez faire une colonne suffisamment épaisse, mais s'il y a une incrustation à l'intérieur qui ne tient pas, elle va s'écrouler. Donc il faut les mettre à l'épreuve. Et Dieu nous met à l'épreuve. Il dit, tu veux être une colonne? Eh bien, je vais t'envoyer une épreuve. Je vais voir si tu tiens. Donc, remercions le Seigneur pour les épreuves, parce qu'il nous fait confiance de vérifier si on tient. Voyez-vous? C'est aussi ça. L'intérêt de l'épreuve, de voir si notre foi, elle tient, parce qu'il n'y a que la foi qui durera dans l'éternité. Amen. C'est notre foi. C'est pas la vue. La vue, tout disparaît. Elle va déjà disparaître lorsque vous allez mourir. Tout ce que vous avez va disparaître. Enfin, pour vous, pas pour vos enfants, mais pour vous. Donc, la foi, c'est la seule qui reste, et Dieu nous met à l'épreuve notre foi. Aujourd'hui, nous réalisons que l'Église de Christ commence à entrer dans un temps de mise à l'épreuve. Ces colonnes sont éprouvées et la solidité de la construction est testée. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, il est dit que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre gloire, c'est quand Jésus va apparaître et que nous sommes une colonne. Si nous sommes une colonne, nous pouvons et bien profiter de cette gloire, mais sinon, nous pouvons avoir peur des conséquences parce que, eh bien, cette gloire va faire disparaître tous les faux semblants que nous avons laissés développer dans nos vies. Je termine en disant que nous sommes aussi une famille spirituelle Foursquare. Foursquare. Et nous portons nous portons ce magnifique nom de l'église de l'évangile Foursquare. L'évangile Foursquare, elle a quatre colonnes. Quatre colonnes. Jésus sauve. Jésus revient. Les quatre colonnes, ce sont les ministères terrestres de Jésus. Jésus a manifesté ses ministères et toute l'Église et l'Évangile est bâti là-dessus. Jésus sauve, sauveur. Jésus guérit, il guérit de tout, toutes choses, corps, âme, esprit. Jésus baptise de l'esprit, donne la puissance, il donne les dons. Et Jésus revient pour régner avec lui, il est le roi de tout l'univers. Donc nous avons ce privilège d'être dans cette famille. Eh bien, soyons aussi les colonnes correspondantes à ces quatre ministères et recherchons cette sagesse qui est attachée à ces colonnes. Donc nous voulons ensemble soutenir un édifice, l'édifice du Seigneur, le temple du Seigneur. Nos pères l'ont fait avant nous. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, nos pères nous ont légué un héritage. Est-ce que nous sommes prêts à être de ceux et celles qui continuons eh bien, à soutenir cet édifice dans la stabilité, dans la constance, dans l'équilibre spirituel, dans la parole de Dieu, pour refléter la lumière de Dieu et aussi pour être des amplificateurs de cette parole, étant fondés sur le Seigneur pour soutenir la vérité. C'est là eh bien, le souhait pour moi, mais aussi pour vous, en tant qu'Église aussi, en tant que famille, pour affermir votre foi dans le Seigneur et pour être des témoins de sa fidélité et de sa grâce. Amen. Soyons des colonnes qui soient à la gloire de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous as encore donné cet enseignement sur cette colonne, ces colonnes de la sagesse. Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit simplement des mots ou des pensées ou des théories, mais Seigneur, nous voulons vraiment être appuyés sur toi, le roc solide, sur lequel rien ni personne ne peut nous faire ébranler. Seigneur, nous voulons être aussi ces colonnes de bronze, ces colonnes de fer, ces colonnes, Seigneur, qui sont stables, qui sont capables de résister à toute épreuve. Seigneur, fais de nous de ces colonnes, afin que nous puissions briller dans ce monde, et apporter, Seigneur, l'espérance de la gloire. Et Seigneur, que nous puissions être une colonne et l'appui de la vérité. Que nous soyons nous n'ayons pas peur de la vérité, parce qu'elle affranchit, elle libère. Et Seigneur, nous te remercions pour toutes ces choses, aussi pour cette année nouvelle, où nous voulons être de cela, pour impacter le monde, impacter aussi le Montois, impacter ce pays, Seigneur, qui a besoin d'hommes et de femmes, qui sont des colonnes. Et nous te remercions parce que c'est ta volonté, c'est ta décision, Seigneur, de faire de nous des colonnes. Et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen.